IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio. Une émission un petit peu spéciale ce matin, mais qui me tenait à cœur et que je suis ravie de pouvoir vous proposer aujourd'hui. Parce que la voix de mon invité est envoûtante et vous avez tous été certainement touchés par cette chanteuse, auteure, compositrice, interprète qui nous a charmés avec son titre « La Liste » sorti en 2006. 2006, je n'en reviens pas quand j'ai réalisé que c'était cette date-là, un titre devenu un véritable succès et qui l'a propulsé alors sur le devant de la scène, révélant une personnalité à la fois sensible et captivante. Mais derrière ce succès fulgurant se cache un parcours semé d'épreuves, de combats et de renaissances. Addiction, maladie, résilience, mon invité a transformé sa douleur en force, en art et en engagement. Aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène avec un nouvel album et Rose Movie, un projet qui célèbre la vie, la création et la liberté retrouvée. Aujourd'hui, mardi 25 novembre, j'ai l'immense plaisir dans l'économie en direct d'accueillir Rose. Bonjour Rose.
Bonjour Jacqueline. Bonjour Francky.
Merci, je suis très émue Rose de t'accueillir. On se tutoie, donc je vais te tutoyer.
Ça m'émeut que tu le sois.
Merci d'être venue jusqu'à nous chez IDFM Radio pour partager ton histoire, ton combat et puis cette lumière que tu continues d'apporter à travers ta musique, tes podcasts et maintenant Rose Movie, une odyssée initiatique où la musique devient la bande originale d'un voyage intérieur. Mm-hmm. Alors, je viens de le dire, ça s'entend, je suis émue et impressionnée de te recevoir ce matin dans l'économie en direct car après avoir été fan de ce succès, La Liste, sans imaginer un instant que des années plus tard, j'aurais le privilège de t'interviewer. Je suis devenue aussi une fan inconditionnelle de tes podcasts que j'ai énormément écoutés au point d'avoir souhaité les diffuser sur notre média, ce qui est le cas pour la deuxième saison. Et ceci grâce à une amie qui un dimanche après-midi m'a partagé un lien vers ses podcasts Contradiction que cette rencontre est devenue possible. On va dérouler un petit peu ton parcours en commençant avec le succès de La Liste en 2006, un phénomène qui est devenu musical et culturel. Est-ce que cette carrière de chanteuse était programmée ?
Et non, alors pas du tout. C'est vrai que par rapport à d'autres personnes que j'ai vues vouloir réussir dans la musique, j'ai pas du tout le même parcours. J'avais pas tenté de faire écouter mes chansons à maintes et maintes maisons de disques. Je connaissais personne d'ailleurs dans la musique. Moi, j'arrivais de Nice. J'étais pas du tout là-dedans. Mais quelque part, on avait un rêve avec ma meilleure amie Johanna. Elle voulait travailler dans le monde de la musique. Et elle avait foi en mes chansons parce que je composais déjà des chansons, mais j'avais dans l'idée
toujours composé. En fait,
oui, j'ai toujours écrit, toujours composé. Je joue de la guitare depuis toute petite parce que mon père nous a appris la guitare comme une langue paternelle, je dis souvent. Et donc évidemment, comme j'écrivais des textes et que je jouais de la guitare, à un moment donné, la composition est arrivée vraiment à moi comme une évidence en fait. Et le rêve le plus fou que moi je faisais, c'était d'un jour écrire pour les autres. Donc c'est vrai qu'en arrivant à Paris, j'avais dans l'idée de rencontrer, peut-être que c'était un endroit où on rencontrait plus de gens du métier de la musique. Ouais. Mais j'aurais jamais cru une seconde que ce rêve fou qu'on avait, Johanna et moi, de faire connaître mes chansons au grand public arrive comme ça aussi vite. C'était vraiment après avoir créé cette chanson La Liste que tout le monde, mes amis, ma famille, Johanna, tout le monde s'est dit, il y a un truc avec cette chanson, faut qu'on aille démarcher.
Faut qu'on creuse et que, ouais. Oui, on la fasse connaître.
Et donc, on avait un CD, trois titres, avec dessus, il y avait du premier album, il y avait la chanson Julien, et Les Jeux sont faits, donc trois titres que j'avais écrits, pas plus. Et c'est parti comme ça. extrêmement vite, j'ai composé le reste de l'album parce que je devais faire les premières parties d'Alain Souchon au Zénith.
D'accord.
Donc je me disais, mais j'ai pas assez de chansons, comment je vais faire? Ouais, ça a commencé vraiment comme
réussi,
ça
donc
en 2005.
Que tu es capable de produire rapidement et bien.
Je suis bonne dans l'urgence, on va dire. Et quand il n'y a pas urgence, la procrastination est de mise, Ouais, le trouble de l'attention est très sévère souvent chez les artistes, et c'est vrai qu'il faut aussi un but, quoi. Je savais que je ne pouvais pas aller me produire sur la scène du Zénith avec 3 titres, quoi. Donc c'était pour moi bon, allons-y. Et puis bon, j'ai bénéficié aussi d'une rupture amoureuse qui m'a permis d'écrire un album entier sur cette rupture avec Julien. Et c'est un album de rupture.
Oui, ça t'a inspiré. Ça t'a inspiré. Et alors donc tu vas dans une maison de disques qui repère ton titre et c'est le succès, un succès soudain. Comment tu l'as vécu?
Alors au début c'est marrant parce qu'on est aussi bien, j'y croyais tellement pas, et en même temps on a des rêves fous, c'est-à-dire avec mon ami on se disait on va vendre 1 million d'albums, on avait des idées comme ça, comme si, donc on n'y croyait pas et en même temps on pensait que ça pouvait être énorme. Et il y a eu quelques mois de battement où l'album est sorti et il se passait rien. Et là, on était ultra déçus, puisqu'il y a eu tellement d'engouement. J'ai été signée, j'ai eu des avances. Donc l'argent, moi, j'en avais pas avant ça. D'un coup, on me donne de l'argent pour pouvoir créer. J'ai un producteur de spectacle, un éditeur. Enfin, il se passe des trucs incroyables. On enregistre avec les meilleurs musiciens, les plus connus, ceux qui travaillent avec Cabrel, enfin, le batteur de Sinclair. Enfin, voilà, on avait une équipe de fous dans le meilleur studio de Paris, chez Dominique Blanc-Francard.
Ah oui.
Et là, l'album, donc on enregistre tout ça, on est en 2006, il sort le 25 septembre 2006, et là, on attend octobre, novembre, décembre, et en fait, on a rêvé pour rien.
Ah oui.
Et puis soudainement, il y a cette espèce de concours, les faisceaux, quoi.
Les connexions qui se mettent en place.
Une émission de télé, une émission de radio, un buzz sur un taratata où j'ai fait un morceau de Janis Joplin. Il s'est passé comme ça, en quelques semaines, en fait, une explosion. Et je passe de inconnu, même pas dans le top album, à numéro 1 des ventes pendant un an.
Oh là là, ouais. Et donc ce million, il a été vendu?
Bah alors non. Mais en tout et pour tout dans ma carrière, on n'y est pas loin. Mais cet album a fait pratiquement 700 000 ventes.
Ouais. Donc ouais, c'était une belle
réussite. Ça n'existe plus aujourd'hui.
Et donc ce succès, ça doit être, c'est enivrant, enfin c'est compliqué à gérer.
C'était non, comme on avait été déçus quelques mois avant, c'est vrai que là à ce moment-là, soulagement de se dire bon, il se passe quelque chose. Là, moi, premier truc que je me dis, c'est fabuleux, j'ai un métier, parce que moi, j'avais pas de métier jusque-là. J'ai cherché, mais j'ai fait du droit, j'ai été institutrice, je savais pas quoi faire du tout. Et je voulais pas passer l'examen du barreau, alors je traînais beaucoup, je sortais le soir, j'ai traîné beaucoup avec des musiciens, mais c'est eux qui voulaient réussir dans la musique, pas moi. J'étais un peu groupie avant d'être moi-même devant de la scène. Et là, soudainement, c'est une reconnaissance, une validation, je me dis, en fait, ça plaît ce que je fais, et surtout, j'ai enfin un métier. Et là, je me rends pas compte qu'en quelques mois, quand je vais faire mes courses, on me dit c'est rose. Mais il y avait quelque chose de très grisant, et puis surtout des bonnes nouvelles à l'appel. C'est-à-dire tous les jours, tu vas aller chez Vivement Dimanche, oui, t'es invité là, tu fais les Francofolies. C'était que des nouvelles incroyables tous les jours qui tombaient. Et surtout, on voyait qu'on vendait 20 000 albums par semaine. Donc
une période
là,
très
touches
très
pas
grisante.
Seul. Ouais, tu touches pas le sol, parce qu'en plus c'est que des chiffres sur du papier, donc on se rend pas compte, sauf que c'est rétroactif, l'argent arrive en général l'année d'après. Donc pendant tout ce temps-là, je comprends pas trop, je vois des chiffres mais je ne sais pas, et d'un coup l'argent arrive. Et là, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu l'impression de perdre pied complètement et de plus être dans la réalité.
Oui, c'est ça. T'as senti que les choses basculaient.
Ouais, que ça m'échappait déjà, que mon image m'échappait aussi, que les gens voyaient la petite rose sage avec ancienne institutrice, petite chemise à carreaux, la petite robe dans Ciao Bella. Et en fait, moi, je voulais être rock'n'roll, je voulais être Janis Joplin. J'avais choisi le prénom Rose pour le film The Rose de Mark Rydell. Et donc, je me suis attelée à partir de là à saboter cette image et à vouloir tout le temps montrer que j'étais pas cette petite fille sage.
Ah oui. Oui, tu voulais pas surtout revendiquer
cette
image. Non,
et surtout, on me mettait dans la case variété. Et c'était à l'époque, aujourd'hui, moi j'adore cette case-là, mais à l'époque, pour moi, j'avais que des amis musiciens qui étaient soi-disant indés. Et donc, j'avais honte.
Ah oui, c'était galvaudé.
Imposture, variété, variétoche. En plus, j'étais entre deux chaises. Il y avait ceux qui étaient un peu décalés. Il y avait Olivia Ruiz, il y avait Anaïs, Camille. Et puis, il y avait le côté, voilà. Et moi, j'étais ni France Inter, ni Chérie FM. Tu vois, il y avait un truc comme ça à cette époque-là. Et surtout, je commence à aimer la nuit, quoi. J'ai toujours aimé la nuit, mais je commence vraiment, vraiment à aller dans les soirées parisiennes où forcément je ne rentrais pas avant. Et là, je rentre partout.
Ah oui, c'est ça. Oui,
mais je rentre, mais je ne ressors jamais. Tiens.
Oui, c'est ce que tu dis dans tes podcasts, puisque on va en parler tout à l'heure des podcasts Contradiction où tu des podcasts, je le dis, je le redis, que j'adore parce qu'il y a une véritable authenticité et tu te dévoiles facilement, hein, tu parles avec à cœur ouvert. Donc tu parles d'une descente aux enfers. Et donc est-ce que t'as senti le moment où tu perdais contrôle?
Non, franchement, je suis très insouciante. Et puis quand on est jeune et qu'on a encore un peu de force, quand on se lève le matin, on rigolait des gueules de bois, quoi. Et puis surtout, pendant longtemps, ça a été des gueules de bois sans un problème de drogue. Donc la drogue est arrivée, la cocaïne, donc c'est arrivé avec ma première tournée. Et puis j'ai découvert un produit qui me permettait de boire encore plus et de jamais quitter la fête parce que j'avais vraiment cette espèce d'envie d'être toujours là tout le temps.
Oui.
Donc j'ai compris
un besoin irrépressible.
Bien plus tard, j'ai compris que la dépendance c'était ça aussi, c'est ce côté de ne jamais vouloir que les choses s'arrêtent. Sûrement un lien avec la mort ou une pulsion de mort et de vie qui se combinent. C'est pour ça que je l'ai appelé contradiction aussi. C'est vraiment que une histoire d'épouser les contradictions sans cesse. Et donc là, je descends doucement, mais je m'en rends pas compte. Là où ça commence à devenir un peu glauque, c'est qu'il y a de moins en moins de fêtes, il y a de moins en moins de succès, c'est-à-dire que le deuxième album est pas accueilli de la même façon, je n'arrive pas à l'écrire, donc ça devient assez glauque, assez pathétique de plus en plus, en fait.
C'est combien de temps, ça, après ?
Oh, ça prend 10 ans.
Oui, mais le deuxième album.
Alors, deuxième album, c'est 2010.
Oui, donc 4 ans plus tard.
Ouais. Moi, en 2008, j'ai 30 ans, j'ai du succès, je me marie, je gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire que je pense que...
T'es sur un petit nuage.
Oui, pour moi, il n'y a rien qui peut arriver. Sauf que mon mari me quitte. C'était le même qui m'avait déjà quitté avant, ah oui. Donc c'est Julien. Donc c'est bon, hein, c'était quand même prédestiné à ne pas fonctionner cette histoire. Mais ça aussi, j'ai rien voulu voir alors que c'était gros. Après, je dois écrire un album, j'y arrive pas. Je le fais quand même. Il est très sombre, il fonctionne pas trop. Après, les fans l'aiment beaucoup cet album. Il a quand même fonctionné par rapport de moins en moins en fait. Les albums fonctionnaient aussi par la conjoncture des disques, hein, puisqu'on parle d'économie.
Bien sûr.
Alors les disques aujourd'hui, quand on vend 30 000 disques, on est ultra heureux. Et encore, on combine le disque d'or, on combine les ventes et les streams.
Ah oui. Donc plus rien à voir.
Ah,
avec
c'est 30 000. Écoute, c'est plus du tout. Et encore, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit c'est fou, t'es la première des ventes, tu vends 20 000 albums par semaine. Il y a encore quelques années, le premier du top album vendait 100 000 par semaine. Ah, oui. Donc j'avais déjà, tout le monde se plaignait. Alors que moi, pour moi, c'était énorme.
Oui, c'était énorme.
J'imaginais 20 000 personnes passer à la Fnac avec le disque, quoi. Et puis voilà, et ce deuxième album, cette rupture, quelques mois après ce highlight,
cette mise en lumière,
highlight 2008, je suis la reine du monde, et 2010, je ne suis plus rien, et je commence à prendre des substances parce que je vais de plus en plus mal, en fait, il y a plus de fêtes.
Oui.
Et après, j'alternerai quand même des périodes de vie où j'arrête, où des fois c'est la fête, des fois c'est glauque, des fois c'est triste, des fois c'est... Ça a été vraiment très chaotique pendant 10 ans.
Rose, puisque nous en parlons, je propose qu'on écoute la liste de la première version, puisque depuis il y en a une autre et on l'écoutera en fin d'émission, mais tout de suite on écoute la liste.
aller à un concert, repeindre ma chambre en vert, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Soit j'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Te faire mourir de rire, aspirer tes soupirs, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Soit j'ai rien trouvé mieux à faire. C'est la liste des choses que je peux faire avec toi. Je sais, je suis trop naïve de dresser la liste non exhaustive. Toutes ces choses que je voudrais faire avec toi. T'embrasser partout, s'aimer quand on est sous, regarder les infos et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con. Avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, une émission très spéciale dans laquelle j'accueille Rose, la auteure, compositrice, interprète et qui nous fait l'honneur d'être venue dans nos studios IDFM Radio et pour nous parler de sa vie, bien sûr, mais de ses combats et puis de ce nouvel album qui vient de sortir. Alors Rose, on comprend que cette descente aux enfers est complètement, enfin, tu es hors contrôle quelque part, on peut dire ça. Et puis il y a un autre combat qui se met à jour, c'est un cancer du sein. Donc je te laisse nous raconter cet épisode.
On est en 2021 et j'ai déjà beaucoup souffert des addictions, essayé d'arrêter jusqu'au moment où en 2017 je prends enfin cette décision ultime que je raconte dans le livre et l'album Kérosène. Donc à ce moment-là, je suis on appelle ça clean chez nous. Oui. Mais en tout cas, je ne consomme plus rien depuis 3 ans et arrive le Covid et non seulement le Covid et un cancer du sein. Je rechute. Oui. Donc ça, je le raconte. Et puis j'ai eu beaucoup de rechutes après. À partir de ce moment-là, ça a été très compliqué. Je ne sais pas comment je ne retrouvais plus ce déclic que j'avais eu.
C'est ça. T'as eu un sursaut salvateur,
ouais,
à un moment donné.
Qui a tenu. En plus, je raconte beaucoup dans mes podcasts qu'on peut pas tenir sur un déclic, oui, ni sur la volonté. Que c'est un peu comme du gainage. Mmh. Ça fonctionne, mais à un moment donné, on lâche. Donc il faut trouver un autre moyen que cette volonté déchaînée. Mais ça, je le savais pas encore. Et donc, je traverse le cancer du sein en allant pas trop mal au début. En tout cas, je le prends... comme j'étais justement dans une voie de rétablissement, j'allais quand même bien. J'étais déjà en quête de sens. Donc, j'avais déjà étudié plein de choses. J'avais fait une formation de yoga et d'ayurveda, la philosophie bouddhiste. Il y avait quelque chose de l'acceptation de ce qui me vient. Et donc, j'ai accepté vraiment ce diagnostic. Mais en fait, j'ai craqué. En fait, ma santé mentale a craqué quelques mois après, le contre-coup sûrement, et puis aussi l'hormonothérapie qui est un traitement très violent où on arrête justement la création d'hormones. Donc une femme, on voyait comment elle est juste avant d'avoir ses cycles, et ben c'est comme ça tout le temps. Donc c'est infernal, et je le raconte dans les Montagnes Roses, cette histoire. Et je découvre pendant le confinement les groupes de parole sur Zoom. Et là, c'est un nouveau départ pour moi en termes de sobriété, parce que c'est plus sur la volonté, mais sur une capitulation.
Ah, d'accord. Donc, c'est toute la différence entre vouloir faire quelque chose et puis accepter de capituler.
Ouais. J'ai mis du temps à comprendre, et pendant 4 ans, j'ai encore lutté. C'est-à-dire, je voulais plus prendre de drogue, mais je voulais pas capituler sur l'alcool. Par exemple, je me suis dit, un jour, je pourrais boire comme tout le monde. Et ça m'a mis vraiment dans des situations très compliquées, de me rendre compte qu'en fait c'était toujours la même chose en fait. Et donc c'est ce qui est génial avec ce programme des narcotiques anonymes, c'est que on apprend à faire différemment, on est soutenu, on a une marraine, on a des gens autour qui vivent la même chose que nous, on apprend qu'on n'est pas un monstre ou quelqu'un de lâche ou de délétère,
qui n'a pas de volonté,
précisément. Qui n'a pas de volonté. On apprend juste qu'on est des malades en rétablissement, et on apprend à baisser les armes, justement. On nous dit dans les groupes, la première fois qu'on arrive, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as perdu la guerre contre le produit, parce qu'il sera toujours plus fort que toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que la guerre est finie. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Mais quand on le comprend, ça s'appelle la capitulation, en fait. À partir de là, c'est j'ai perdu le contrôle de ma vie, je ne peux pas contrôler le produit. Donc maintenant, montre-moi comment vivre. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, j'avais pas compris qu'il fallait qu'on mette des choses à la place.
D'accord. Oui, en fait, c'est un espace où la vulnérabilité devient une force.
Exactement.
Ouais. Et je crois savoir, enfin, toujours en écoutant tes podcasts, que tu en fréquentes plusieurs de groupes de parole, c'est ça?
En fait, c'est des réunions, il y a les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, il y a les outre-mangeurs anonymes, il y a les joueurs anonymes, puisqu'on est à Enghien-les-Bains.
Oui.
Parce que moi, je suis venue ici, j'avais un problème avec le jeu aussi. En fait, j'avais des problèmes avec tout. Moi, jeune, c'était le sucre, le jeu à 18 ans, et puis l'alcool, et puis la cocaïne. Donc, quand on est addict, en fait, on est addict à tout. On a même vu des gens se faire du mal avec de l'eau.
Ah oui.
Non, mais des gens qui arrêtent tout et qui se mettent à boire des litres d'eau.
Des litres d'eau, j'avais lu ça, en effet, oui.
On a appris qu'il y avait la bigorexie maintenant, les gens qui font trop de sport et qui se font mal. L'orthorexie, c'est cette espèce de rigidité dans l'alimentation, dans le mode de vie, addict au sein, S-A-I-N, quoi. Vraiment, il faut que tout soit bio, tout soit machin, vegan. Enfin, voilà, ça, c'est de l'orthorexie. Et en fait, les addicts, ils passent d'une addiction à une autre comme ça.
Ouais.
Et le but étant de passer d'addiction de moins en moins grave déjà, mais d'abord avec le principe numéro un de ces groupes, c'est je ne consomme pas. C'est l'abstinence totale.
Et donc pour revenir au cancer du sein, c'est pas ça qui t'a libéré de l'addiction ?
Non, mais ça m'a libéré de plein d'autres maux. J'ai compris beaucoup de choses, et surtout j'ai compris aussi que je devais arrêter de me battre contre ce que la vie me proposait.
Oui,
et j'avais déjà ça en moi à ce moment-là déjà, j'avais connu les groupes, donc en fait ça m'a beaucoup aidé, les groupes, pour tout le reste en fait. C'est-à-dire que la philosophie des narcotiques anonymes, c'est un programme spirituel en 12 étapes qui nous apprend à capituler, qui nous apprend à faire un bilan de ce qu'on est, à voir qu'on est ni moins bien ni mieux que les autres, parce que l'addict est très égocentrique. En fait, il consomme parce qu'il pense que lui, il est pas pareil. Moi, c'est pas pareil.
D'accord.
Et voilà, on apprend qu'on est juste un être humain.
Et donc tu parles de, alors tu me tends la perche de la spiritualité, hein, puisque tu m'as expliqué que ça avait changé ta vie, parce qu'avant c'est pas du tout un domaine par lequel tu étais attirée.
Non. Non, mais il m'a, aussi loin que je me souvienne, il me manquait quelque chose. C'est comme s'il y avait un truc en moi qui était une pièce manquante. Donc il y en a qui disent que c'est une partie d'âme, il y en a qui vont dire que c'est un vide, un trou béant. On ressent tout ça, les addicts, quelque chose en nous qu'il faut dans l'urgence remplir. Mais tant qu'on n'a pas conscience de ce vide et tant qu'on ne va pas justement le nourrir avec des choses qui perdurent, oui, et pas des plaisirs éphémères, puisque voilà, on passe notre vie à prendre, et ça ne suffit jamais, on augmente les doses et on est de plus en plus vide en fait. Et en fait, j'ai compris en arrivant dans ces groupes que ce qui me manquait, parce que ces groupes sont fondés aussi sur la vision de Carl Gustav Jung, quand oui, même, mmh, qui expliquait qu'un addict ne pouvait pas se défaire d'une addiction sans connaître une véritable transformation, voire une conversion. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de plus fort que le produit, à part Dieu en soi. Voilà.
D'accord.
Donc, dans les programmes, il y a des athées, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais de trouver une puissance supérieure à nous, c'est-à-dire que on peut imaginer que c'est le groupe.
Oui, on n'est pas obligé de l'appeler Dieu.
Non, c'est ça. Pas du tout. C'est une puissance supérieure. Il y en a même qui, moi au début, j'ai eu du mal aussi à croire. Je croyais pas en Dieu, j'avais pas croire en Dieu d'un coup. Et au début, je voyais ça comme une part de moi qui me veut du bien. Donc, par exemple, même l'inconscient, parce que souvent, par exemple, en hypnose, il va travailler avec notre inconscient parce que lui, il sait mieux que nous. Donc, ça peut être l'inconscient que moi, au fond, j'appelle l'âme aussi.
Rose, on écoute un autre titre. Je te laisse l'annoncer, le titre qu'on va écouter.
Alors, c'est le titre, on va dire, comment on appelle ça, éponyme, hein, oui. Rose Movie.
Merci Rose, on se retrouve juste après.
Ça ressemble à personne, ça ressemble à des tas. Notre film sans récit, des histoires malotales qui glissent dans l'oubli. Une route qui s'écrit au fil des pourquoi, des comment, ça se dit qu'on a perdu la foi, qu'on a perdu le fil de ce qu'on fout là à faire si bien comme si on avait le choix. Une route de nuit comme elle s'évapore au gré de l'oubli à chaque nouvelle aurore. Ça ressemble à personne, ça ressemble à des tonnes d'autres films sans récit, des histoires monotones qui glissent dans l'oubli. Partir pour quelque chose, revenir plus petit sans avoir rien appris de la beauté des roses. Voyage alibi pour écumer les doutes, c'est prendre de l'infini, mourir coûte que coûte, pour revenir en vie, la mémoire ou l'autre, l'avenir en sursis, le cœur qui s'enfuit et dévale les pentes, sans carte et sans abri, sans rien dans le ventre. Ça ressemble à personne, ça ressemble à des tonnes. D'autres films sans récit, des histoires monotones qui glissent dans l'oubli. Partir pour quelque chose, revenir plus petit, sans avoir rien appris que la beauté des roses. Ça ressemble à personne, ça ressemble à des tonnes. D'autres films sans récit, des histoires monotones qui glissent dans l'oubli. Partir pour quelque chose, revenir plus petit, sans avoir rien appris que la beauté des roses. Ça ressemble à personne, ça ressemble à des tonnes. D'autres films sans récit, des histoires monotones qui glissent dans l'oubli. Partir pour quelque chose, revenir plus petit, sans avoir
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct avec ce matin une émission toute spéciale qui accueille Rose, compositrice, interprète, chanteuse, qui a connu un succès fulgurant en 2006 avec son fameux titre « La liste ». Mais Rose ne se résume pas qu'à ce titre. C'est une personnalité aujourd'hui riche et que j'ai énormément de plaisir à accueillir. Rose, donc, est-ce que cette spiritualité, est-ce qu'elle a été une vraie réponse à l'addiction, au cancer, ou quelque chose qui couvait en toi depuis toujours?
Oui, parce que ça a ouvert une porte de l'invisible, tout simplement. Et du coup, il y a eu une espèce de lâcher prise sur les épreuves, en ayant une foi en la vie, en fait, en me disant que ce qui est sur mon chemin, c'est mon chemin, donc je dois le vivre et je de plus lutter, en effet. Et puis aussi, moi, la prière m'a énormément aidée, cette prière. Mais au début, c'était, je priais vraiment sans savoir qui, quoi, comment, hein. Je me rappelle même d'avoir fait une thérapie chamanique, psychédélique d'ayahuasca, en ayant noté comme intention, parce qu'il faut y aller avec des intentions, je veux savoir qui je prie.
D'accord.
Parce que je priais, mais je savais pas qui. Mais comme ça fonctionnait, ça m'apaisait. Et qu'en plus, j'obtenais des choses que je demandais. Mais des choses, attention, pas de l'argent, pas des trucs. C'est-à-dire que je demandais d'être en paix, je demandais d'être en joie. Je ne voulais plus jamais être cette personne au fond du... Ouais. En fait, je voulais... Voilà, la vision bouddhiste. Pour moi, le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Quand on a souffert comme j'ai souffert à l'intérieur de la tête, quand il n'y a plus cette souffrance, on est heureux. Et donc, je demandais cette sérénité et elle venait. Et puis finalement, avec cette cérémonie chamanique, j'ai vu des archétypes. En fait, je sais pas si c'est ça ou pas, mais j'ai pu voir le visage de Marie. J'ai vu des icônes comme ça, et ça m'a confortée dans l'idée. Et puis j'ai aussi vu ma grand-mère. J'ai eu des visions de choses qui m'ont énormément apaisée, comme par exemple ma mère. Elle avait 10 ans, et c'était un regard. Je me disais, ah, elle aussi, elle a fait comme elle a pu. Elle a peut-être souffert, elle aussi, en fait.
Oui, c'est ça. On parle de l'épi génétique,
ouais. Et puis la mémoire transgénérationnelle.
C'est ça. Ouais,
donc j'ai compris que ma grand-mère avait eu une vie terrible. J'ai appris beaucoup de choses, mais justement, je me suis dit, ah ok, donc il y a tellement de causes qu'il faut arrêter de les chercher, parce que sinon c'est sans fin.
Oui, c'est ça.
Bah oui, ça peut être l'enfance, ça peut être un trauma qu'on a oublié, ça peut être une mémoire transgénérationnelle. Et moi, en plus, je crois aux vies antérieures, donc peut venir d'une autre vie, selon moi. Donc bon, arrêtons de chercher. Et c'est ça qui est bien aussi dans les programmes, c'est que on n'est pas dans le pourquoi, on est dans le comment. Voilà, comment vivre sans drogue.
Quand je t'écoute, on sent que tu incarnes une forme de résilience, hein, qui dépasse la simple guérison, pour toucher presque quelque chose de profond, de sacré.
Bah, en fait, on est en rétablissement et je me dis que plein de fois, j'ai cru que j'étais arrivée quelque part. Et donc là, quand tu me dis ça, j'ai envie de te dire oui. Et en fait, je sais que quand je dis ça y est, j'ai compris, bah, en fait, en général, je rechute derrière, il se passe quelque chose de pas cool, parce que je pense que il faut pas oublier qu'on est en chemin tout le temps et que souvent, on a l'impression de comprendre un truc et 2 ans après, on se dit, bah, en fait, j'avais rien compris. Donc maintenant, un peu d'humilité, parce que le nombre de fois où j'ai dit j'ai tout compris, je sais aujourd'hui que je ne sais rien.
Oui. Alors, j'ai oublié de te demander, comment vas-tu par rapport à ton cancer aujourd'hui?
Alors, je suis en rémission. Alors, rétablissement rétablissement, ça c'est pour l'addiction, on appelle ça le rétablissement. Et pour le cancer, c'est en rémission, ça fait 4 ans, et la 5e année, on dit qu'on est guéri.
Donc je suis en bonne voie. Tu passes des contrôles régulièrement?
Oui. Et j'ai fait un IRM hier.
Ah, très bien. Tu as eu le résultat?
Donc tout va bien.
Tout va bien. Bon, bah, tant mieux, on est ravis.
Merci.
Mais tu n'es plus sous hormonothérapie?
Si.
Ah si, quand même. C'est à vie?
Non. Ils préconisent 5 ans et même après, ils préconisent de continuer encore 5 ans. Moi, je ne crois pas que je continuerai. Je pense que je vais continuer comme on m'a demandé jusqu'à 5 ans parce que quand même, c'est beaucoup
c'est
de
lourd.
Conséquences, des effets secondaires énormément.
Ah oui,
sur les os surtout. Sur le moral, Et puis le vieillissement prématuré aussi, ça, disons qu'on est en ménopause induite brutale, quoi.
Constante, oui.
Ouais, et ça, ouais, je me vois vieillir, quoi. Mais bon, c'est l'âge, bah, c'est normal aussi.
Non, non, tu es très belle. J'ai fait cet aparté parce que voilà, je voulais te poser cette question et j'avais oublié de le faire. On revient à l'ayahuasca. C'est quand même une pratique un peu controversée. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer cette cérémonie? Parce que c'est une cérémonie.
Oui. J'étais passionnée par le chamanisme, donc j'avais lu énormément de livres, et aussi bien le chamanisme mongolien avec des tambours. J'avais vu un film avec Corinne Sambran sur l'histoire de Corinne Sambran, donc cette ingénieure du son de la BBC qui part au fin fond de la Mongolie pour prendre le son d'une chamane avec un tambour, et qui au premier coup de tambour rentre en transe et découvre qu'elle est chamane. Et donc c'est un film merveilleux qui s'appelle Les autres mondes, ou je sais plus comment, avec Cécile de France, qui joue le rôle de Corinne Sambran. C'est un magnifique film, donc ça a commencé à m'attirer. J'ai commencé à regarder les chamans du Pérou, et j'ai découvert cette plante. En fait, j'ai une passion pour l'invisible, pour la vie après la mort. Tout ça m'attire. J'ai envie de croire à tout ça. Mais sauf qu'on veut toujours des preuves, nous. On a toujours besoin. Oui,
comme Saint Thomas.
Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte, avec tous les témoignages, tous les livres que j'avais lus, que l'ayahuasca, c'est ce qui se rapprochait le plus d'une expérience de mort imminente. Et comme dans les expériences de mort imminente, les gens reviennent en ayant vu des choses incroyables, moi, voilà, je suis une addict, je veux des choses incroyables. Je le referai pas, sûrement. Parce que, encore une fois, on n'est pas addict à cette substance, c'est pas une drogue, du tout.
Non.
Mais on peut être addict à ce qu'on a vu, la sensation, et vouloir tout le temps y retourner.
Toujours cette sensation, oui.
Bah, parce que le monde nous paraît tellement triste et fade, tel qu'il est, alors qu'on a vu des choses
merveilleuses.
Incroyables, ouais. Donc c'est une racine, c'est deux plantes mélangées qui macèrent, enfin, c'est une mixture, au millimètre près, enfin, c'est quelque chose de très... Ce qui est controversé aujourd'hui, ce sont le tourisme chamanique et voilà, les gens qui partent là-bas avec des gens qui abusent des touristes, avec des mauvaises substances. Ouais, il faut faire très attention. Voilà, moi, j'avais un chaman qu'on m'avait vraiment recommandé.
Très, très.
Mais je conseille pas, en fait. C'est vraiment mon expérience. Aujourd'hui, il y a des thérapies psychédéliques, des essais cliniques au CHU de Nîmes, avec la psilocybine, c'est les champignons.
C'est vrai.
C'est aussi pareil.
J'ai vu ça.
Il y a sous kétamine, enfin, il y a énormément de thérapies psychédéliques. Et elles fonctionnent, c'est pas la substance qui fonctionne pour soigner les dépressions et l'addiction, c'est l'éveil qu'elles induisent.
Et est-ce que tu as eu le sentiment que cette expérience a changé ta manière d'écrire ou même de chanter?
Peut-être pas de chanter, ça c'est plus la sobriété, j'ai l'impression, mais d'écrire, oui, parce que j'ai pris conscience lors de la cérémonie que j'avais énormément chanté la souffrance, et que quelque part tout musicien est un peu chaman, et le chaman, il a un devoir de guérison. Donc ça fait du bien aussi de chanter la souffrance, les gens s'identifient, ça leur fait du bien, mais je préfère chanter la joie et de dire que c'est possible de trouver une lumière à l'intérieur de soi plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur.
Une vraie sage.
J'ai eu en tout cas ce message-là qui me disait maintenant il faut chanter la joie et l'amour.
Ouais, très bien. Rose, merci pour vraiment ce témoignage. On va marquer à nouveau une pause, eh bien, et je te laisse, comme tout à l'heure, nous annoncer le titre.
Eh bien, on va partir dans ma tête, dans les tréfonds de ma cervelle, et écouter Mitraillette.
Merci, Rose.
On m'a prescrit de quoi y voir, entre les scies un peu moins noires. Un ramassis, un tas d'histoires qui font la pluie et le brouillard. On m'a soufflé les premiers pas, mais j'ai baissé souvent les bras. Trop loin l'après, trop haute la foi, trop faux le vrai, trop tôt pour moi. Et ça fait ta 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 comme une mitraillette. Crois-moi dans ma tête, t'aimerais pas y être. Ta 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 ta, ça fout tout en miettes, ça tire dans le tas. Dans la lumière, j'ai bu trop vite, j'ai vu l'enfer. Et puis la suite, on la préfère, sans les grands huit avant l'after. J'ai refusé frauder la quand j'ai accusé papa, maman. J'ai accepté le vide béant, les cris d'après, les bruits d'avant. J'ai mis des notes sur des secrets, ouvert des portes, fermé des plaies. J'ai rien appris de ce que je sais. J'ai juste compris que je saurais rien à la vie, aux signaux, vos amis, les échos. Ta-ta-ta-ta-ta comme une mitraillette. Crois-moi dans ma tête, t'aimerais pas y être. Ta-ta-ta-ta-ta se fout tout en miettes. Ça tire dans le tas, c'est sans queue ni tête. Ta-ta-ta-ta-ta une vraie girouette. Je suis pas pire que toi mais pas mieux en fait. Ta-ta-ta-ta-ta dans tous les sens peut-être. Mais je reviens vers moi, j'avais juste à renaître. Mais tout était déjà là. J'étais une femme de lettres, je n'étais rien que ça. Ce que j'avais en quête, moi je l'étais déjà. Une flamme, un prophète, une âme qui s'apprête à être. Dans tous les sens je me fuis, souvent je penche donc je suis. Jamais étanche à l'ennui qui se déhanche sur mes nuits. Dans tous les sens, moi je prie autant le silence que le bruit, la providence, le ciel vide. Alors je flanche et j'écris des lettres blanches, des mots gris, des rêves immenses, trop petits pour ma conscience infinie.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct avec ce matin une émission très spéciale. J'accueille Rose, chanteuse, compositrice, interprète, auteure, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour évoquer son parcours, ses combats et sa renaissance. Rose, tu es aujourd'hui aussi la fondatrice d'un podcast qui s'appelle Contre Addiction, en deux mots. Et c'est comme ça, je l'ai dit au début, mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, même si moi, je te connaissais en tant que chanteuse de la liste, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir un lien d'un de tes podcasts qui parlait d'une association du Val d'Oise, le DVO,
ah oui,
dont j'ai rencontré depuis le fondateur, qui lutte aussi contre l'addiction avec une méthode. En fait, c'est la méthode, si je me souviens bien,
Minnesota.
Oh,
mais
voilà.
C'est celle des alcooliques anonymes.
Ah oui,
c'est la même.
Eh bien, ils sont basés à Anguin, ouais, dans le Val d'Oise, et depuis 30 ans, avec le témoignage de ce fameux podcast d'une jeune femme qui a retrouvé, alors qu'elle dormait sous les ponts, et puis aujourd'hui elle a retrouvé une vie, un travail, enfin vraiment une vraie renaissance également. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné, moi je voudrais savoir, à quel moment tu as décidé de produire ces podcasts?
C'était pendant le Covid. Moi, le Covid a été quand même un moment crucial, et je pense que d'ailleurs ça a été un moment charnière dans la vie de plein de gens, et qu'on va se rendre compte. Moi, je me dis pourquoi il n'y a pas plus de livres qui s'appellent Ce que le Covid m'a appris.
Ouais,
ou...
ouais.
Il y a eu quelque chose. Moi, ce qui me faisait rire, c'est le mot Covid. C'est pour moi, c'était le partage du vide.
Ah, oui.
J'entendais ça dans Covid,
ouais, ouais.
Et en fait on a tous partagé nos peurs, nos doutes, l'angoisse d'être enfermé, l'angoisse d'être seul, la peur. On a ressenti tout un tas d'émotions qui ont d'ailleurs été très violentes pour les addicts. Énormément d'addicts ont rechuté pendant le Covid parce que plus de réunions.
Bien sûr.
Beaucoup aussi de violences conjugales.
Il y avait les visios quand même.
Mais les visios sont nées.
Ah oui.
Elles sont nées grâce au Covid. Elles n'existaient pas avant. Donc ça aussi, le Covid a pu permettre ça à des gens qui habitent des endroits où il n'y a pas de réunion. Et donc moi, le Covid déjà m'a fait découvrir les groupes. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, quand j'ai entendu tous ces témoignages, Je dis, mais j'ai envie d'interviewer, d'aller plus loin avec ces gens-là, mais j'avais pas prévu d'inviter Frédéric Becbédé ou Joey Starr, dans ma tête. Et j'ai trouvé le nom Contradiction, et je commence toujours mes projets par le nom. Une fois que j'ai le nom, je sais que ça va aller. Ça va aller. Comme Kérosène ou bon. Rose Movie. Ouais. Là, c'était Contradiction, et j'avais compris que tout venait de nos contradictions et de cette dualité en nous. On aimerait faire ceci, mais on fait cela. On voudrait se faire du bien, mais on se fait du mal. Et je voulais justement un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et à ce moment-là, pendant le Covid, je me suis prise en main avec ces groupes de parole et j'ai commencé à me nourrir de choses dont je ne m'étais jamais nourrie. La spiritualité, donc l'Ayurveda, le yoga, le bouddhisme, la philosophie. Et je me suis dit, il faut que les gens sachent qu'il y a des choses qui nous mettent dans des états de high, comme de la drogue, et qui sont bonnes pour nous.
Sans contre-effet.
Et je voulais savoir quelles étaient les méthodes de chacun, parce que moi c'était ça, mais d'autres c'était autre chose. Et j'ai commencé comme ça à écrire un petit projet. Et la chance que j'ai eue, c'est que je me suis fait interviewer dans un podcast qui s'appelle 40 par Marjorie Murphy sur la bascule de la quarantaine. Et à la fin du podcast, je lui dis, c'est marrant, j'ai une idée de podcast. Je lui dis, elle me dit, mais viens, on le fait. Mais c'est parti comme pour tout le reste dans ma vie en général, c'est voilà
comme
une rencontre.
Coup de cœur.
Ouais. Ouais. Et à partir de là, mes rêves sont devenus réalité parce que les gens que je mettais sur mes listes comme ça, un peu les fameuses listes wish list, et ben finalement les gens venaient, disaient oui parce que cet espace n'existait pas. Il y en avait pas d'autres. Alors maintenant il commence à y en avoir d'autres et c'est super. Moi j'en suis très contente. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de podcast où les gens venaient raconter leurs addictions avec honnêteté.
Est-ce que oui, tu dis il y en a d'autres, mais bon, moi j'en ai écouté aussi d'autres, mais ce qui fait vraiment la différence, je pense, avec les tiens, c'est cette authenticité, parce que toi-même tu es voilà, tu es transparent, tu es nature, et ça, je pense que ça donne une dimension que beaucoup d'autres podcasts n'ont pas.
C'est ce qu'on me dit. C'est mon sentiment. Et ça, j'avoue que je reconnais ça. C'est, je pense que j'incarne le podcast
complètement.
Et comme en plus on suit mes aventures, parce que j'ai raconté aussi des moments difficiles, des rechutes.
Oui, voilà.
J'ai cru que j'étais plus addict. J'ai dit mais en fait, je peux boire un peu. Je suis passée par tous les stades en 4 ans, et ils sont dans ces podcasts.
Ouais, tu parles sans filtre.
Sans
en fait.
Filtre. Et puis je vois pas l'intérêt de mentir, puisque le but de ce podcast, c'était justement que les addicts n'aient plus honte. Puisque si moi je dis que c'est dur et que j'ai bu et que j'ai encore merdé, et ben les gens vont se dire bon ben alors ça veut dire que je suis pas seule.
Absolument. Ouais ouais. Je crois que c'est vraiment là la clé de.
Et
de
puis l'addiction est partout. Donc ce qui est génial, c'est qu'on a pu aborder des thèmes que j'aurais jamais cru aborder, c'est-à-dire la philosophie, le désir. Le désir, c'est ce qui est le plus fort aussi. Alors de se détruire ou de se reconstruire. La nourriture.
Oui, ça c'est le podcast avec Frédéric Lenoir.
Avec Frédéric Lenoir, incroyable.
Oui.
Et puis, oui, c'est juste remplir ce vide. Comment est-ce qu'on va remplir ce vide ?
Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai vu une de tes vidéos aussi où tu expliques que ce qui t'a sauvé quelque part, c'est le jour où tu as compris que l'addiction, c'était une maladie.
Oui.
Où là, vraiment, tu t'es dit, bah non, c'est pas moi qui suis mauvaise, une mauvaise personne.
Et puis, il y en a des millions comme moi, surtout.
Ouais.
On est des millions. Alors, on n'est pas fiers, hein, mais on est des millions. Il y a des salles tous les jours. Il y a des milliers de réunions dans le monde, jusqu'en Asie, en Chine, au Pérou. Il y en a partout. Donc, on est des millions à se rétablir. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi on ne m'avait pas dit avant que j'étais malade.
Oui.
Moi, je pensais vraiment que j'étais juste nulle. Hein. Mais vraiment. Le mot qui revient le plus chez les addicts, c'est vraiment, c'est pas joli, mais c'est
ça,
une grosse merde.
On se dit
cette phrase-là, on continue.
Oui, oui, oui.
Pourquoi je sais et pourquoi j'y retourne?
Je ne peux pas m'en sortir.
Ouais. Et ben en fait, en écoutant les podcasts, on comprend que c'est le propre de la maladie.
Là où tu as aussi, je pense, réussi un coup fameux, c'est que ces podcasts aujourd'hui sont soutenus par la MILDECA, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. J'imagine, ça a dû marquer un tournant. Comment cette rencontre avec la MILDECA s'est-elle produite ?
C'est une chance folle, mais comme tout ce qui m'arrive de bien dans ma vie, je dis pas que c'est la chance, mais je veux dire c'est vraiment souvent et c'est pour ça que maintenant je suis adepte de d'arrêter la volonté déchaînée, c'est-à-dire je fais ma part et en général l'univers me renvoie à la sienne. Et donc nous on a mission d'agir, mais les résultats sont pas entre nos mains. Et moi, j'ai agi, c'est-à-dire que j'ai fait un nombre incommensurable de colloques, de conférences, j'ai été rencontrer des addictologues, j'ai fait tellement d'épisodes que je me suis retrouvée à un colloque où j'ai rencontré une femme extraordinaire, Annie Egerman, qui, elle, organise des grands colloques d'addiction. Elle connaît tous les médecins et j'étais là-bas, j'ai dit, mais il y a des sponsors partout, comment je peux faire pour trouver un sponsor? Elle m'a dit, non, il faut pas aller chercher des marques et des trucs, il faut aller voir le gouvernement directement. Tiens le numéro de Nicolas Price, le directeur de la Mildeca. J'en attendais pas tant. J'ai rencontré un homme, mais charmant, mais incroyablement intelligent, fin, raffiné, qui a aimé l'idée du podcast. Et aujourd'hui, je me dis, ça vient du ciel, parce que franchement, pas grand monde a une subvention pour un podcast, non. Quoi.
Ouais, mais je pense qu'ils ont, ils ont été touchés aussi par la qualité de ces podcasts. Nicolas Price, que tu as reçu, je crois.
Exactement.
Hein, d'ailleurs.
Oui, absolument. Et là, normalement, on va partir avec eux pour une troisième saison avec eux. Enfin, c'est la quatrième saison, mais la première, on l'a fait seule.
Et donc maintenant, alors, tu mets au point ce podcast. Maintenant, il faut trouver des invités.
Ouais.
Donc comment
pas évident, hein.
Parce que tu as des belles signatures dans ton podcast. Est-ce parce que c'est par rapport à ton passé de chanteuse ça a
Je pense
aidé
que c'est
un
plus
peu.
Mon passé d'addict. Je pense que déjà les gens sont plus à même de venir parler de leurs addictions avec quelqu'un qui les comprend et qui a vécu la même chose. C'est pas juste quelqu'un qui est curieux. En fait, voilà, parce qu'il y a d'autres podcasts comme ça où on a l'impression que c'est un peu voyeur.
C'est malsain,
oui. Oui, alors vas-y, raconte, et t'étais comme ci, t'étais comme ça, il y a un côté hardisson. Moi, c'est pas du tout ça que je veux faire.
Ouais.
Moi, c'est et les invités, disons que y a déjà tout le monde m'envoie des messages toute la journée en me disant, tu sais que lui, il est addict, tu sais. Genre, ça devient un peu fatigant quand même à la longue, mais moi, c'est vraiment que des gens que j'ai envie de recevoir, des coups de cœur. Il y a des gens que j'adorais, que je ne savais même pas à la base qu'ils avaient des addictions, des machins, et donc ça tombait pile, voilà. Puis même Frédéric Lenoir, que je lis depuis toujours, qui m'a fait découvrir Spinoza avec son livre Le Miracle Spinoza, de savoir qu'il avait fait ce livre sur le désir qui ne parle que d'addiction, en fait. Et on prend Mathieu Ricard, c'est mon rêve par exemple d'inviter Mathieu Ricard, il parle énormément d'addiction, c'est vraiment le mal de l'être humain et du siècle.
Ouais, le mal de, voilà, de l'universel.
Avec le téléphone, on est en plein dedans, aujourd'hui on n'a plus une seconde de vrai.
C'est vrai, c'est vrai. et donc, aucune difficulté pour recevoir ces personnes?
Si, déjà de les joindre, et puis à chaque fois, chaque message que je leur envoie, c'est pas le même pour chacun, de réexpliquer à chaque fois le projet, qui je suis. Mais plus ça va, plus on a un nombre d'écoutes qui aussi donne envie peut-être aux gens de venir. Mais en même temps, ça s'essouffle un peu, les gens disent, oh, c'est bon, elle a fait tous ces trucs, peut-être qu'il y en a qui ont moins, au début ils disaient oui tout de suite, là, ils réfléchissent. Donc ça dépend, vraiment. Et Joey Starr, j'ai eu une chance folle, je suis tombée sur lui dans la rue, alors qu'il me répondait pas. Je suis rentrée dans Joey Starr.
Ah oui, d'accord.
Je suis sortie de chez moi, je me suis cognée. Et j'ai dit, attends, je t'en supplie, Didier. Et puis, machin. Et il m'a dit, alors on va le faire.
Ouais, bah, il était super, en plus.
Incroyable. Ouais. Carla Bruni, c'était incroyable. Franck Dubos, quand j'ai appris qu'il avait arrêté de fumer, j'ai dit, mais c'est génial. Gad Elmaleh qui arrête de boire, c'est important. En plus, c'était le moment de la polémique où on avait dit, vous êtes devenu chiant en arrêtant de boire, Léa Salamé. Les gens se sont un peu révoltés aussi et avaient envie de dire que c'était pas chiant d'arrêter de boire.
Et est-ce qu'il y a des invités que tu aimerais recevoir et tu n'arrives pas à les recevoir?
Ouais, il y en a beaucoup. J'aimerais inviter l'humoriste Romane Fraissinet, qui est un porte-parole grandiose pour la jeunesse, parce que il est fun, il est drôle, il est jeune, et il explique que le bédo c'est fini et que il a dit adieu à l'alcool, à la tease, au pétard. Et donc j'aimerais parler avec lui de ça. Il y a Zaz, il y a Camille Lelouch aussi que j'aimerais vraiment beaucoup recevoir. J'ai toute une liste là. J'ai toute une liste, mais je retente Manu Payet aussi qui parle beaucoup de l'arrêt de la cigarette, du pétard, de l'alcool. Je pense que c'est une question d'âge aussi. Tout le monde, à un moment donné, se dit, bon, stop, en fait, ça fait plus de mal que de bien.
Ouais,
et il y a un moment donné où la fuite est plus douloureuse, en fait, que la réalité. Mm-hmm. Alors que pendant longtemps, on préférait la fuite.
C'est clair. Alors là, on a cité toutes les personnes célèbres, connues, Moi, ce que j'aime aussi dans tes podcasts, c'est que tu invites des personnes, alors qui sont connues dans leur milieu, comme Sébastien Boller.
Oh là là.
Voilà, c'est un neuroscientifique. Moi, c'est un podcast que j'ai écouté, mais peut-être 4-5 fois.
C'est mon préféré, tu sais.
Ah oui, mais ouais. Pareil. Ouais. Quand il parle, il décrit les mécanismes du cerveau. C'est incroyable.
C'est un de mes préférés. Moi, j'ai Sébastien Boller. Donc, c'est Où est le sens? Donc, encore une fois, on voit bien que le problème vient de la perte de sens. Donc, évidemment, la spiritualité vient en remettre. J'ai énormément aimé Franck Lobvé.
Voilà, Franck Lobvé.
Alors moi, il m'a boule. Bon, j'ai pleuré aussi, d'ailleurs dans l'épisode.
Ouais, pareil.
Parce qu'il m'a fait comprendre qu'en fait l'addict était quelqu'un qui voulait reprendre le contrôle de sa vie en allant frôler la mort. Et ça, je l'avais jamais compris.
Ah oui.
C'est-à-dire, comme on n'a pas choisi d'être là sur Terre et qu'on souffre de ça, on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Il y a pas de sens à ma vie. Et ben alors on va aller frôler la mort et d'un coup décider non, je veux rester en vie en fait et je vais me rétablir.
Ah.
Et là d'un coup, t'as l'impression d'être acteur de ta vie, puisque t'as pas décidé de venir au monde. Alors ça, ça m'a bouleversée. Et puis, un des derniers, Masha Zabat.
Voilà.
Qui... Ah ouais, c'est vrai? Bah alors, Masha, tu vois, on a les mêmes...
Je l'ai écoutée il y a pas très longtemps.
Elle est extraordinaire.
Ce que j'aime, c'est sa façon de dire tant qu'on se considère comme un objet.
Ouais.
Voilà. Mais ça, je trouve que l'image est forte.
Bien sûr. Hein,
on n'arrive pas à s'en sortir et on n'est plus un objet. Ouais.
D'aller, justement, ne plus se voir comme un objet, c'est aller chercher la sécurité de l'être humain. C'est pas un objet, il a besoin de sécurité.
Ouais, ouais, ouais.
Si on l'a pas eu dans notre enfance, il va falloir se la donner soi-même. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait dit, faut arrêter, d'essayer d'arrêter. À un moment donné, elle aussi, elle parle de lâcher.
Ah oui, oui. Non, c'est vraiment aussi un podcast.
Et puis, il y a tous les angles, hein, tu vois, il y a des gens qui prônent la sobriété, l'abstinence, mais c'est pas pareil, l'abstinence et la sobriété pour moi, l'abstinence c'est un peu dur.
Oui, c'est agressif, oui.
La sobriété pour moi, c'est ça a du sens. Mais là, par exemple, j'invite demain une coach en addiction qui est géniale, qui s'appelle Ashley Taïeb, et elle, ou Masha, ne prennent pas forcément l'abstinence. Elles disent que compter les jours de sobriété, il y a un côté pervers, parce que c'est comme si on était en sursis. Et tout ça, ça bouleverse. Hein.
Oui, puis c'est ce que tu disais en début d'émission. Ça fait appel à une certaine volonté. Et à un moment donné, on va craquer. Donc, c'est pas la peine.
Ouais, ouais. Mais ça bouleverse parce que moi, je suis dans ces groupes-là où on prône la sobriété. Donc, il y a des moments où... C'est pour ça aussi qu'on peut rechuter. Par exemple, il suffit que quelqu'un vous mette dans la tête que il faut pas... La sobriété, ça va, ta maladie, elle va prendre cette info au vol et elle va te dire, ah, vas-y, ouais, tu vois que tu peux.
C'est là où le cerveau est très,
est
comme un ennemi quelque part, hein.
Bien sûr. Ouais, mental, ouais.
Rose, je suis passionnée par cette interview.
Ça se voit, merci.
On fait encore une pause.
Est-ce que je peux juste te demander quel est ton préféré?
Eh bien, Frédéric Lenoir, je l'ai adoré, mais, vraiment, Sébastien Boller, je crois que je l'ai écouté déjà 5 fois, parce que il faudrait que je le retranscrive pour pouvoir le lire, parce que voilà.
Je suis d'accord, parce que il parle vraiment du fonctionnement biologique et de ce cortex singulaire qui s'allume quand on perd le sens.
Et de cette chimie du cerveau qui fait qu'on est.
On est tous addicts.
On se dit que le libre arbitre n'existe pas.
Exactement.
Hein, Allez Rose, tu nous donnes un autre titre de ton album.
Je crois qu'on s'était dit qu'on écouterait la nouvelle liste.
Ah bah écoute, allez, on l'écoute.
Faisons ça.
Aller vers la lumière, repeindre ma vie en vert, balancer la vodka, croire toujours plus en moi, remettre en décolleté, sûrement sans rescaper, apprendre à accepter. Pleurer pour un rien, mais rire de mes chagrins. Ne plus faire semblant, conjuguer au présent. Fumer un peu moins, plus remettre à demain. Me donner les moyens. Ouvrir grand les fenêtres, m'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça vous dérange? Y'a rien de plus beau à faire qu'un bout de chemin sur cette terre. Mais c'est la liste des choses que je veux faire avec moi. Me faire mourir de rire, repousser les soupirs, prier pour demander, méditer pour écouter, écrire encore, me lever aux aurores et respirer plus fort. Me serrer cœur, pardonner mes erreurs, jouer de la guitare, danser avec les stars, me remplir d'envie, avoir une grande vie, me passer de l'inutile, jeter tout par les fenêtres, le passé et les dettes. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça vous déçoit? Soit y a rien de plus beau à faire qu'un bout de chemin sur cette terre. Mais c'est la liste des choses que je peux faire avec moi. De toutes ces choses que je voudrais faire avec moi. Me mettre à genoux, aimer la vie sans être sous, regarder mon reflet et commencer à l'aimer, m'éveiller un soupçon, me demander pardon et refaire cette chanson. Avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, préférer grandir plutôt que vieillir, faire du mieux que je peux, me dire qu'on est heureux, emmerder les envieux.
IDFM 98 FM.
Nous sommes toujours dans l'économie en direct, un numéro spécial qui nous plonge dans le monde de Rose, auteure, compositrice, interprète, fondatrice de Contradictions, mais également d'un album qui vient de sortir, Rose Movie, et dont nous allons parler plus précisément dans quelques minutes. Avant ça, Rose, je voudrais qu'on revienne. Donc, tu es soutenue par la Mildeca pour tes podcasts. Parce que ton engagement soulève une question cruciale, les addictions et leurs conséquences au niveau de la santé, la perte de productivité, les souffrances familiales, et qui ont un coût énorme financièrement pour la société. Est-ce que tu as eu l'occasion de te plonger sur cet aspect de l'addiction?
Ouais, bien sûr, évidemment, mais comme je suis pas du tout matheuse, les chiffres rentrent et ressortent pour moi.
C'est pareil
pour
moi.
Mais je sais que c'est des millions, non, des milliards même, on compte en milliards le coût, hein.
Surtout de l'alcool et du tabac. Oui, par an en dépenses et en santé publique.
Ouais, des milliards.
Sans compter l'impact humain, puisque forcément ça a des conséquences. Et comment est-ce que tu perçois ce paradoxe entre les budgets colossaux dépensés pour réparer et le manque de moyens pour prévenir ou accompagner spirituellement, comme toi tu l'as fait?
C'est qu'aussi l'addictologie c'est une discipline très récente. Elle a à peine 60 ans, je crois. Et en fait, il y a beaucoup d'addictologues, par exemple, qui commencent à parler de spiritualité, alors que c'était impossible d'en parler avant, et qui ont compris que c'était le sens. Par exemple, il y avait à l'époque, en 45, Viktor Frankl, c'était la logothérapie, c'est la thérapie par le sens. C'est-à-dire que les gens sont malheureux de ne pas avoir de sens à leur vie. Quand il n'y a pas de sens, le cortex singulaire s'allume, il dit vite, 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 trouvons du sens, et donc on va prendre quelque chose qu'on connaît. Donc le verre, la cigarette, on ouvre le frigo, voilà. Ça va avec la procrastination, ça va avec notre époque aussi. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'il va falloir ouvrir, on parle beaucoup de prévention et de réduction des risques. C'est très important aussi de faire de la réduction des risques que fait la Mildeca, c'est-à-dire que on part du principe que les gens vont consommer, donc comment est-ce qu'on peut leur dire que c'est deux verres maximum et pas tous les soirs, voilà, ce genre de choses, c'est important. Il y a eu un documentaire Boire qui est passé sur France Télé qui explique à quel point non, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Non, on va sortir de cette idée festive. C'est comme la cigarette. Aujourd'hui, ça devient ringard. Je pense qu'à un moment donné, on va comprendre que c'est un poison, mais c'est surtout un poison spirituel. C'est-à-dire que ça nous empêche d'aller chercher le vrai sens et de nous connecter à nous vraiment. En fait, c'est une fuite.
En fait, on veut se cacher la vérité.
C'est une fuite.
Oui, c'est ça.
Donc l'addiction, tant qu'elle sera traitée juste par les biais biologiques, alors oui, il y a la biologie du cerveau, il y a l'environnement, c'est une multitude de facteurs. Donc ça, il faut maintenant, on le dit, l'addiction est une maladie multifactorielle. Voilà, c'est génétique, c'est le cerveau, c'est l'environnement, c'est les gens qu'on a rencontrés, c'est aussi la précarité.
La mémoire transgénérationnelle.
La mémoire transgénérationnelle. Et puis souvent, on voit derrière l'addiction des traumas très graves. Dans les groupes de parole, il y a 80% des gens qui ont subi des abus, des viols. Donc voilà, ça commence à être traité différemment. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, moi, par contre, c'est les lobbies alcool, tabac. Oui, oui, j'ai beaucoup de mal à me dire qu'on met ça en avant et qu'à côté, on paye des milliards pour sortir les gens de ces cancers du poumon.
Oui, c'est ce que je disais. Il vaudrait mieux faire de la prévention que de la réparation, quelque part.
Parce que c'est encore une fois une contradiction humaine. C'est ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait en vrai. Je pense que Sébastien Bollard explique très bien pourquoi est-ce que l'homme détruit la planète. C'est ancré dans son code génétique, puisqu'il veut toujours plus.
Ouais, c'est vrai.
Il va être obligé d'aller forer des espaces où on n'allait pas chercher dans la nature ces choses-là. On détruit la planète pour produire.
Alors, puisqu'on parle de Sébastien Bollard, on revient rapidement sur moi, ce qui m'a vraiment... j'en avais conscience, mais Sébastien Bollard l'explique très bien, c'est le rôle de la dopamine. Et je trouve que tu l'expliques très bien, Rose, donc explique-nous.
Je ne suis pas médecin, mais déjà la maladie de l'addiction, de la dépendance, c'est un dérèglement du système de la récompense.
Oui, voilà.
Donc la récompense, c'est pour ça qu'il dit « on est tous addicts ». Et à la même substance, on a tous le même dealer, c'est notre cerveau. C'est lui qui nous produit ce shoot de dopamine quand on a du plaisir. Et lui, il explique très bien qu'est-ce qui procure du plaisir. Il y a 5 choses et à chaque fois j'en oublie. Donc je sais qu'il y a évidemment manger, se reproduire, asseoir du pouvoir, glaner de l'information. Donc c'est là qu'on comprend pourquoi il y a addiction à Internet.
C'est ça.
Parce qu'en fait,
les gens scrollent.
Plus on a l'impression de connaître des choses, plus on veut connaître. Et en fait, c'est un biais cognitif totalement biaisé en vrai.
Oui,
parce que on croit que donc il y a les biais cognitifs aussi qui rentrent en jeu, c'est-à-dire de se dire je crois que je suis plus calé qu'avant parce que j'ai lu tel article et en fait c'est jamais suffisant. Et donc il y a encore d'autres choses, j'en ai dit 4, je crois, il y en a 5 qui nous procurent de la dopamine. Et donc, on va sans cesse aller chercher ces choses-là. Voilà. Et donc, c'était Spinoza qui disait, les hommes se croient libres d'agir, mais en fait, ils ignorent les causes qui les déterminent. Mais les causes, elles sont donc biologiques, psychosomatiques, psychiatriques, psychologiques, enfin.
Oui,
voilà.
C'est un...
Donc, je dis pas qu'on va connaître les causes maintenant, mais au moins savoir qu'on n'agit pas librement. Il faut qu'on le sache.
Encore revenir à ce que nous disions, on n'est pas. Alors, si on est responsable, mais voilà, il y a ce être indulgent avec soi-même.
Bah oui, parce que c'est notre cerveau, et je pense que c'est comme ça, l'être humain. Et je ne sais pas pourquoi il est conçu comme ça, mais force est de constater que les guerres, la violence, la destruction font partie de l'être humain. Et ça, c'est dans son code génétique.
Complètement.
Donc déjà un peu d'indulgence en effet. Puis quand tu disais on est responsable, évidemment, et ça c'est une phrase qu'on dit beaucoup dans l'addiction, on n'est pas coupable de sa maladie, mais on est responsable de notre rétablissement.
D'accord.
C'est comme les gens qui font des choses horribles, des abus,
des crimes.
Ils sont pas coupables de leur maladie, mais ils sont responsables de se soigner.
Bien sûr.
Tout le monde est capable de voir qui fait du mal à autrui. Et à soi surtout.
Merci Rose pour toutes ces précisions. Je crois que l'interview pourrait durer encore longtemps, mais voilà, on a quand même un.
Ben oui, mais c'est déjà bien.
Temps. Et est-ce qu'on fait une pause encore? Alors voilà, tu nous annonces un nouveau titre, Rose.
Alors pourquoi pas écouter mon titre préféré, c'est le dernier de l'album, qui justement, tu vois, par rapport à l'indulgence, qui raconte que de toute façon, même si on sait tout ça, il va falloir vivre les choses pour les comprendre dans sa chair, en fait. C'est pas besoin qu'on nous explique les choses, après il faut les vivre, et ça s'appelle « J'aurais fait comme toi ».
Allez, on écoute « J'aurais fait comme toi ».
Sûrement tu te battras contre rien, contre toi, contre tes propres soldats, et c'est toi qui perdras. tu maudiras les ténèbres, alors qu'il suffisait de rallumer tes rêves, les laisser te guider. Tu crieras que tu crèves comme on a tous crié. Faudra qu'on te relève, tu sauras plus marcher. T'auras pas besoin de moi pour te faire une idée du monde qui tourne pas. Il faudra te brûler, il faudra que t'aies froid pour pas recommencer. J'aurais fait comme toi. Tu feras tant de choix qui seront ceux des autres pour plaire à qui voudra. Tu fermeras la porte à tout ce que tu crois et tu feras en sorte que ça se voit même pas, que ce soit pas ta faute. Tu crieras que tu crèves comme on a tous crié. Faudra qu'on te relève, tu sauras plus marcher. T'auras pas besoin de moi pour te faire une idée du monde qui tourne pas. Il faudra te brûler, il faudra que t'aies froid pour pas recommencer. J'aurais fait comme toi, c'est comme ça que je fais. Mais je fais tout comme toi. T'auras pas besoin de moi pour te faire une idée du monde qui tourne pas. Il faudra te brûler, il faudra que t'aies froid pour pas recommencer. J'aurais fait comme toi, c'est comme ça que j'ai fait. Du haut de mon vantage, tu ne croiras pas, mais l'on devient plus sage quand on écoute sa voix, quand on n'a que l'âge, quand on n'a que la foi. Je sais que c'est dommage qu'une vie ne suffise pas pour apprendre sur soi. Mais j'ai tout fait comme toi. Je sais que c'est dommage, mais j'ai fait tout comme toi.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est toujours l'économie en direct, c'est la dernière ligne droite de cette émission très spéciale qui accueille Rose. Rose, notre chanteuse, auteure, compositrice qui nous a fait l'honneur de partager avec IDFM Radio la diffusion de ses podcasts Contradiction, et que j'avais à cœur d'accueillir dans nos studios. Voilà. Alors Rose, aujourd'hui il y a un nouvel album, Rose Movie, et qui marque ton retour sur scène. On sent une énergie nouvelle, c'est ça, pour toi?
Ouais, c'est un triptyque qui est conçu. D'abord, j'ai écrit un spectacle, et pour ce spectacle, je me suis rendu compte que, au début, je voulais chanter des anciennes chansons et raconter une histoire. Mmh. J'avais pas prévu de faire un disque, mais en fait, ce que je voulais raconter n'était pas dans mes anciennes chansons, donc j'ai écrit des nouveaux textes. La liste a été transformée aussi parce qu'elle n'allait plus dans ce spectacle. Et puis l'histoire que je raconte, j'ai voulu la mettre aussi par écrit dans un livre pour ceux qui n'ont pas la chance de voir ce spectacle, parce que c'est vraiment, moi, je le vois, ce disque, ce livre et ce spectacle, je le vois vraiment comme un, comme un livre initiatique, comme les Paolo Coelho, même les films Mange, Priem, cette histoire de chemin qui est plus important que la destination, que la quête, en fait, c'est ça le but. C'est et ça. En même temps, renoncer aussi à la quête, c'est ça la sagesse. Donc, il y a toujours cette ambivalence. Et de partir chercher en 8 chapitres qui on est pour comprendre qu'en fait, tout était en nous et que d'aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur, c'est l'addiction, c'est ça qui est fou. Mm-hmm. Donc, tout est lié. Et donc, c'est un chemin initiatique vers soi avec beaucoup de révélations que je me suis faite à moi-même, que j'appelle des punchlines, mais vraiment cette idée de dire tu ne peux pas être qui tu veux, mais tu dois être qui tu es. Ça, quand je l'ai compris, de dire cette injonction à dire on peut être qui on veut, moi, j'y crois pas. Parce qu'il faut pas essayer de prendre le rôle des autres. Et comme l'idée de ce Rose Movie, c'est de faire le parallèle entre la vie et un film, un road movie, eh bien, le parallèle est tout fait, il est tout simple, c'est qu'on est des acteurs.
C'est ton goût pour le jeu des mots aussi.
Déjà, évidemment, mais c'est aussi mon goût pour les road movies, les films français. J'ai une passion pour tout ce qui est road movie, les films de voyage, parce que souvent, on part pour quelque chose, mais on apprend autre chose.
Ouais.
Et il se passe exactement tout ce qu'on n'avait pas prévu qui allait se passer. Jean de La Fontaine disait, on rencontre notre destinée sur la route que nous avons choisie pour l'éviter. Donc c'est vraiment ce truc-là de se dire, ben non, je veux pas passer par là parce que c'est moi qui décide. Mais non, il se passe pas du tout ce que t'avais décidé. Et voilà, pour moi, c'est ça ce film. Et c'est aussi de dire que la lumière, elle peut être allumée. Même si on traverse de la souffrance, de la douleur, moi ça m'arrive de pleurer, d'aller mal, d'avoir des jours sombres. Mais vraiment, je suis pas du tout ni une sainte ni un Bouddha. Mais alors, j'en suis extrêmement loin. Je suis encore très colérique. Mais à l'intérieur, j'ai allumé quelque chose qui fait que je peux m'y reconnecter à chaque fois. Et c'est ça que je veux partager aujourd'hui.
Et donc, ce projet, tu étais dessus depuis longtemps?
Non, je pense que oui, toute ma vie.
Oui.
Mais qu'il est
ça
arrivé
fait partie
en
du chemin.
Quelques mois, ouais. Mais comme souvent, quand j'ai un projet, il demande à sortir comme un bébé, quoi.
T'as commencé à écrire un texte?
J'ai commencé à écrire Soleil, le texte première chanson, qui était au début juste l'intro de mon concert, qui expliquait qu'en fait, on est tous pareils, on a des ténèbres entre les deux oreilles et entre les poumons, un soleil. C'est ça que je voulais dire au début. Oui, dans la tête, c'est n'importe quoi, mais si on se reconnecte au cœur, et c'est dur, hein. Parce que moi, je vois, quand c'est ma tête, mon ego, mon truc, je suis en train de calculer tout et j'attends le résultat et je me dis si je dis ça. Alors que quand c'est avec le cœur, mais c'est un exercice qu'il faut faire, c'est un muscle. Est-ce que je suis dans ma tête ou est-ce que je suis dans mon cœur?
Comme un lâcher prise.
Ouais, et en fait, quand ça vient du cœur, tout est vrai, tout passe, tout le monde comprend. Ça devient, en fait, on se met en lien. Il faut pas oublier que l'addiction, c'est la maladie du lien.
Ouais.
Et on peut pas se mettre en lien avec l'autre avec la tête.
D'accord. Ah, écoute.
Bah non, ça reste que cérébral, c'est pas un lien.
Bien sûr. Et donc tu écris, tu décides d'aller plus loin, de faire un album. Explique-nous un petit peu la genèse et puis le parcours de cet album.
Alors j'ai commencé à écrire des interludes pour lier mes anciennes chansons pour raconter ce road movie. Et en fait, il y a eu tellement de textes écrits que d'un coup j'ai pris ma guitare, je vis avec un pianiste, donc on a commencé à composer des chansons. La première c'était justement « J'aurais fait comme toi », la liste que j'ai réécrite évidemment. Plus tard viendront deux chansons, « Rose Movie » et « Tournesol » composées avec une amie à moi, Émilie March. Je demande à Claude Lemel, qui est le plus grand parolier
que j'ai reçu pour
raconter justement son époque qui picolait beaucoup, puisqu'il était très ami avec Carlos, avec Joe Dassin. Il a écrit l'été indien, enfin il a écrit 1500 tubes,
et il
a 80 ans aujourd'hui, Claude, et il a arrêté de boire à 70 ans, c'est fou.
Oui, d'accord.
Et donc je lui ai demandé un texte, je voulais écrire une chanson sur le tournesol, et moi je sais pas faire ce genre de choses avec la nature, moi j'écris que des choses très humaines, et je voulais une chanson où on se disait que aujourd'hui, ce qui, à mon avis, la solution c'est de se tourner vers la lumière, tout le temps. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose de sombre, où est la lumière, n'oublions jamais, comme un tournesol. Et puis voilà, et l'album est arrivé, puis j'avais pas de maison de disque. Je l'ai proposé à deux maisons de disques qui m'ont fait attendre, et finalement c'était négatif. J'ai dit, ok, alors maintenant la vie me propose de produire un album pour la première fois de ma vie. Et on s'y est mis avec ma manageuse Audrey, et on l'a fait. Et on l'a fait, c'est vraiment, ça a été magique. En quelques mois, tout a été fait, le spectacle, le livre et l'album.
Et aussi des concerts.
Et voilà.
Donc
des spectacles même.
Oui, des spectacles.
Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup. Tu es venue?
Oui, je suis venue. Je suis venue le 13 octobre.
Donc tu te rends bien compte que je parle beaucoup.
Oui, mais c'est voilà, il y a une sorte d'intimité qui se crée avec le public. C'est très sympathique.
C'est de l'impro.
Et puis aussi beaucoup d'humour. Voilà, ça.
Quand on improvise, il vaut mieux avoir un peu d'humour parce que il faut retomber sur ses pattes. Hein. J'ai du mal à travailler, moi.
Ah oui.
Ouais. Et donc je m'étais dit, après ce concert-là, j'ai dit non, maintenant il faut que j'apprenne mon texte, et j'ai toujours pas réussi, donc je reste toujours en impro pour l'instant. J'ai le cadre des 8 chapitres, donc le départ, le voyage, la chute, la pause, le déclic, l'acceptation et le retour. Et j'ai ce cadre-là. Il y a même un moment où il y a des extraits de contradictions.
J'avais noté. C'est un spectacle qui m'a beaucoup plu, qui était... Voilà, on se sent... alors, peut-être parce que maintenant, je te connais bien à travers tes podcasts, mais voilà, je me sentais en totale connexion avec toi.
Ah ouais, c'est très intégratif. Ah ouais, j'ai l'impression que... Ouais, et puis, c'est très, quelque part, intime. Hein, c'est un lien très intime avec le public. Et puis, j'ai l'impression qu'on repart... Moi, c'est ça que j'avais envie, c'est que les gens se posent des questions quand même et se disent... Oh, c'est vrai, peut-être qu'en fait, le sens de la vie, je l'ai cherché dans des choses qui n'en avaient pas.
Oui, et c'est tout le problème du chemin, du fameux chemin. Et puis, moi, j'ai observé dans la salle, c'était vraiment multigénérationnel. Hein, donc ça, c'est sans doute des personnes comme moi qui ont connu la chanson en 2006 et qui t'ont finalement suivi quelque part.
Oui, je suis assez étonnée de voir que les gens aiment la nouvelle liste. En disant qu'ils ont évolué de la même façon. Donc, je me dis, voilà, en fait, on est tous les mêmes.
Donc, un spectacle dont tu as composé tous les textes et la musique.
Ouais, certaines musiques avec Romain Bérodier, donc mon compagnon, à la ville comme à la scène. Mais oui, tous les textes. Mmh. Ouais.
Et alors, quelles sont les prochaines étapes, en tout cas artistiquement et puis personnellement?
Bah écoute, j'ai du mal, en fait, j'ai tellement appris à vivre dans le présent que mon défaut aujourd'hui, alors que tout le monde rêverait d'être dans le présent et de pas chercher, c'est que j'ai du mal à me projeter. Et moi, je fais les choses une par une. Je fais les choses une par une, mais quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, j'ai fait pareil. J'ai fait un rendez-vous après l'autre. Et quand on demande à Stephen King comment il écrit, il dit un mot à la fois. Donc, je dois vivre ce spectacle, voir comment ça se passe. Moi, mon but, ça serait qu'il y ait beaucoup de dates, donc il y en a pas, à mon sens, encore assez. La tournée, finalement, elle est un peu décalée, ça va être surtout l'automne prochain.
Ça peut faire un petit peu comme la première liste qui a eu un décalage.
Peut-être, ouais. Je l'espère, je le souhaite, mais je ne me souhaite pas un succès comme la liste. Au fond de moi, je sais que c'est pas ça que je souhaite. Mais je souhaite, en fait, pour moi, tout ce projet, il est une main tendue. C'est de la transmission, mais c'est aussi... Je tends une main et puis ceux qui ont envie de la saisir, ils la saisissent. Et si ça peut éclairer, aider, faire du bien à quelques personnes, et si elles sont en grand nombre, c'est encore mieux.
Oui,
mais c'est
sûr.
Vraiment ça, c'est comme contradiction. Moi, je pense que j'ai ça en moi. J'ai besoin de tendre la main.
Naturellement.
Ouais.
Tu as enchaîné quand même pas mal de plateaux radio, télé. Donc là, aujourd'hui, quel serait l'endroit où tu aimerais aller?
Oh là là, bah, j'espère moi aller sur des plateaux comme C'est à vous, ce genre de choses. Donc on est en attente pour ce genre de choses. J'aurais aimé, moi mon rêve c'était d'aller faire un atelier de liste à la Star Academy, c'est-à-dire de leur faire écrire leur propre liste, ce genre de choses. En fait, moi, j'ai pas d'attente, je crois. Je fais tout ce que... En fait, je fais mon maximum. Et la vie m'apporte les fruits ou pas, quoi. Et je me dis que ce que je récolte, c'est ce que je dois récolter.
Ouais.
Donc, on verra bien. Mais je pense que ça sent bon et que j'ai fait pas mal de radio et de télé qui me plaisent beaucoup. Et d'ailleurs, j'aime énormément ton interview et cette émission. Je tiens à te le dire et te féliciter parce que t'étais un peu... impressionnée, mais alors c'est toi qui m'impressionne.
Ah bah écoute, merci en tout cas du compliment, parce que c'est vrai que c'est pas évident de... Alors, oui et non, parce que quand je prépare une émission, je prépare beaucoup cette émission.
Ça se voit.
Et dans ton cas, j'avais tellement d'informations qu'il fallait que j'arrive à les canaliser. Mais voilà, bon écoute...
Mais rassure-moi, on est d'accord que tu es une addict.
Je suis une addict, complètement.
Parce que je vois comment tu te nourris de ce que tu fais dans ton travail, et que tu prépares les choses comme moi, je prépare mes podcasts, c'est-à-dire avec passion.
Ouais, je suis une addict et je vais essayer quand même d'appliquer les conseils que tu viens de donner, parce que je crois que j'en suis très loin.
Doucement, soyons doux.
Rose, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite déjà lancer un podcast sur un sujet sensible comme les addictions?
Tu veux dire que tu donnes des conseils à la concurrence, c'est ça?
Tu nous as expliqué que c'était pas si simple
non,
que ça.
Non, pas du tout. Et encore une fois, j'ai cette chance-là, moi, de faire les choses sans réfléchir.
Ouais.
Et je peux te dire que quand j'ai fait la saison 1 à mes coûts, à mes frais, sans soutien et tout, mais je m'en foutais complètement. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai obtenu cette subvention. Donc moi, ce que je veux dire aux gens, c'est faites ce que vous ressentez avec le cœur, faites-le à fond et n'attendez aucun résultat. Et c'est comme ça que les résultats arrivent, parce qu'en fait, quand on est dans l'intérêt, dans le calcul, moi, je trouve qu'il se passe rien, en fait. Après, il y a plein de projets que j'ai lancés où il s'est rien passé. J'avais lancé un truc à un moment donné, parolière particulière. Je voulais absolument écrire des chansons pour les événements. J'adore faire ça. J'ai toujours fait dans ma famille les mariages, les trucs. Et je pensais que ça allait cartonner.
En plus, ça n'existait pas. Ouais.
Non, mais je me suis dit, les gens ont besoin de ça. Mais en fait, n'importe quoi. Il y a l'IA déjà qui fait ça.
Oui, aujourd'hui.
Et puis,
ouais.
Je me suis dit, mais attends, en fait, c'est normal que ça n'ait pas marché. Quel était ton but? C'était gagner de l'argent. Mais vraiment, hein. Je me suis dit, je lance un business de chansons. C'était un business.
Oui, c'est ça.
Ah, mais moi, je suis pas une business. Moi, dès que je fais du business, ça marche pas. Donc la première liste, c'était pas du business. Hein. J'ai écrit une liste et c'est tout.
Oui.
Et moi, il faut que je reste là-dedans, sinon ça ne fonctionne pas et surtout, je suis malheureuse. Donc si je peux vous conseiller un truc, c'est faites ce que vous ressentez, n'attendez rien, ne vous mettez pas d'objectif d'aller d'un point A à un point B. Dans le livre, je dis, si tu te fixes d'aller d'un point A à un point B, tu te prives de toutes les autres lettres de l'alphabet.
Parce qu'en fait,
on perd, il faut explorer.
Mm-hmm.
Pas de but, que le chemin.
Bon, on retiendra ce conseil, Rose.
Ça nécessite du courage quand même et de la foi, hein, parce que sans la foi, moi, je me lance pas.
Oui, parce que aujourd'hui, donc, au niveau de l'addiction, c'est peut-être quand même c'est un petit ça qui nous réunit. Aujourd'hui, comment te sens-tu par rapport à tes addictions?
En ce moment, c'est quand même merveilleux parce que j'ai perdu, c'est ce que nous promet ce programme d'ailleurs d'Alcoolique Anonyme, j'ai perdu l'obsession de consommer. Ça, c'est un truc merveilleux qui fait que je peux y penser, je peux avoir envie, je peux avoir des étincelles, des cravings, mais ça passe. Et d'ailleurs, on apprend à faire la même chose avec toutes les autres émotions. Et ce qui est fabuleux avec ce programme, c'est qu'après, on fait la même chose avec la colère. Par exemple, de pas prendre la première goutte du premier verre, et ben, ne pas prendre la première goutte de la première colère, ne pas prendre la première goutte du premier ressentiment, parce qu'en fait, c'est un moulin où tu mets ton bras et il va te prendre tout le corps. On le sait avec le produit, et maintenant, on peut le faire avec tout. Avec mes relations avec autrui, dans ma vie, mais c'est très long. Et donc
il faut pas baisser les bras jamais.
Moi, je sais que je fais mon job, je fais ma part et je vois que j'avance. Mais je peux pas me dire je veux être guérie ou je veux ne plus jamais être en colère, ça ne marchera jamais.
Merci infiniment Rose, ton parcours est celui d'une femme dont l'histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever et de renaître. Ta musique, tes podcasts et maintenant Rose Movie sont des cadeaux pour ceux qui t'écoute. Et je le dis avec beaucoup de sincérité.
Merci infiniment.
Juste un mot avant de nous quitter. C'est ma tradition. Toi, tu demandes la définition de l'addiction. Un mot avant de nous quitter.
Un mot n'importe lequel.
Enfin, voilà, une petite conclusion.
Gratitude. J'ai pas d'autres mots là qui me viennent de pouvoir m'exprimer sur des choses qui me tiennent tant à cœur. J'ai de la gratitude d'être là avec vous dans ce studio et d'avoir pu échanger comme ça aussi authentiquement et bien avec bienveillance.
Eh bien, écoute, merci. C'est encore moi qui te remercie d'avoir accepté de venir jusqu'à nous parce que je sais que tu viens de loin quand même. Donc, c'était d'autant plus précieux pour nous. Merci d'incarner cette alchimie rare entre fragilité et puissance. Moi, je trouve que ton retour sonne comme une victoire. Et on est très honorés chez DFM Radio de t'accompagner dans cette nouvelle étape. Je rappelle que ton nouvel album et Rose Movie sont disponibles partout. Donc, auditrice, auditeur, n'hésitez pas à consommer sans modération.
Merci. Merci infiniment. Bonne journée.
Merci. Merci Francky pour la technique. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous être fidèles comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le portail de la radio. D'ici la bonne journée, à vendredi pour un nouveau numéro de l'économie en direct.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.